Paso doble.
Paso doble.
Vendredi, bande dessinée.
Bonjour tout le monde, la bande dessinée que je vous recommande pour cette semaine est éditée par Delcourt. Elle a pour titre « Désintégration », pour sous-titre « Journal d'un conseiller à Matignon ». C'est dessiné par Robin Recht et nous avons au téléphone, non pas au téléphone mais en duplex de Grenoble où il vit, le scénariste Mathieu Angotti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble. C'est votre métier en ce moment ?
Absolument.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites ?
En fait, comme dans toutes les villes de France, Grenoble a un centre d'action sociale et c'est ce qui s'occupe pour la ville, pour la mairie, des crèches, des maisons de retraite, des centres d'hébergement, des aides sociales.
Donc vous continuez votre travail. Je vous dis ça parce que dans cette bande dessinée très intéressante, très éclairante sur les coulisses du pouvoir, vous rappelez cette période où vous avez été entre 2012 et 2014 conseiller de Jean-Marc Ayrault. Alors, cette bande dessinée, ce n'est pas comme celle de Mathieu Sapin, le château où il était en immersion à l'Élysée, mais en tant que qu'auteur de bande dessinée. Ce n'est pas non plus Quai d'Orsay, dessiné par Blin à partir d'un témoignage à l'intérieur même du ministère des Affaires étrangères, même si on pourrait effectivement comparer les deux bandes dessinées. Il s'agit un peu du même principe. Mais vous racontez surtout une initiation à la politique. Vous avez quel âge d'ailleurs, Mathieu Angotti ? Vous étiez plutôt jeune quand vous avez été appelé au ministère de Jean-Marc Ayrault.
J'ai 39 ans, j'étais plutôt parmi les jeunes. Il faut savoir que c'est un univers, les cabinets, où il y a quand même pas mal de jeunes qui sortent de l'ENA ou qui ont fait quelques années dans l'administration avant. Mais c'est plutôt un univers où il y a des jeunes.
Mais alors comment êtes-vous arrivé à Matignon ?
Eh ben, un peu par hasard, c'est-à-dire que j'étais à l'époque représentant associatif, directeur d'une fédération d'associations, et puis Jean-Marc Ayrault et son conseiller social cherchaient quelqu'un de la société civile pour animer la préparation, l'élaboration d'un plan de lutte contre la pauvreté. Et j'ai eu l'information, et j'ai envoyé mon CV, et puis ils m'ont retenu pour cette mission plan pauvreté. On a fait cette mission-là pendant les premiers mois où j'étais à Matignon, et ensuite ils m'ont confié le dossier intégration que je développe un peu plus dans la BD.
Voilà, mais est-ce que vous étiez encarté ?
Pas du tout, nulle part, jamais.
Alors c'est vraiment très édifiant quand on lit votre témoignage, cette bande dessinée. Il s'agit donc de raconter comment porte un texte de loi le travail de l'ombre des conseillers, des spécialistes, des politiques, de la place de la communication. Donc même s'il ne s'agit pas seulement d'un récit politique ou d'un témoignage sur un engagement, le vôtre, en l'occurrence Mathieu Angotti, vous expliquez à travers cette bande dessinée les mécanismes du pouvoir politique.
Absolument, c'est ce que j'ai vécu en fait, la manière dont je les ai perçus. Alors c'est la forme du journal de bord, donc au plus près de ce que je vivais et de ce que je notais au quotidien. J'essaye dans la BD vraiment de faire quasiment du copier-coller des dialogues que j'ai pu retranscrire et de la façon dont j'ai ressenti les choses. Alors il y a effectivement toute une mécanique qui est assez particulière, des codes, des façons de travailler. Je me souviens par exemple que dans les salles de réunion, chacun a à peu près toujours la même place. C'est-à-dire, vous rentrez dans une salle, Matignon se met à droite, les conseillers se mettent à gauche, l'Élysée a sa place particulière, le secrétariat général du gouvernement a sa place. Il y a comme ça tout un ensemble de codes, presque une codification, et il faut rentrer dedans pour pouvoir y participer, pour pouvoir être accepté d'une certaine façon.
Alors bien sûr, c'est un récit après coup. Je suppose que vous avez commencé à imaginer la bande dessinée après votre départ de Matignon, c'est-à-dire après le départ de Jean-Marc Ayrault. Mais vous dites que cette idée de raconter tout ça un jour était présente dès votre entrée à Matignon.
Oui, en fait, le jour où je suis rentré, Robin Recht, qui est quelqu'un de très proche, m'a appelé et m'a dit « Prends des notes, peut-être qu'un jour on pourra en faire quelque chose ». On avait évidemment en tête l'exemple de Quai d'Orsay, hein, faut pas s'en cacher, qui est une grande référence pour nous. C'est un peu différent parce que Quai d'Orsay, c'est l'univers de la politique extérieure qui est assez distinct des circuits de la politique intérieure. Nous, on vient raconter comment se fabrique la politique plutôt du côté des cabinets en France, quoi. Mais c'est vrai qu'on avait cette référence-là. Et puis, du coup, j'ai tenu ce journal de bord. Honnêtement, il m'a aidé aussi pendant que j'y étais. Ça m'a permis de prendre de la distance, de passer, j'allais dire, les pics de stress un peu plus facilement. Et puis, une fois que que ça a été terminé, on s'est mis au boulot avec Robin pour en faire un bouquin.
Donc vous décrivez les 2 ans que vous avez passés en tant que conseiller du Premier ministre. Alors bien sûr, vous parlez de la loi intégration qui n'a pas été un succès, ça on va en parler, mais il n'y a pas eu que ça. Avant, il y a eu quand même quelques travaux qui ont porté.
Oui, alors c'est paradoxal parce que c'est les travaux sur la pauvreté. C'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, la pauvreté, malheureusement, est encore extrêmement forte en France. Elle a plutôt eu tendance à stagner. Mais par contre, ça a été une réussite dans la mesure où ce qu'on voulait faire, ce plan pauvreté, qui a fini par être adopté pour 2 milliards d'euros, ce qui était quand même quelque chose, il a vu le jour avec toutes les mesures qu'on espérait, la hausse du RSA, le nombre de personnes bénéficiant de la CMU, de la couverture médicale universelle qui augmente de 300 000, la création de la garantie jeune, qui est une sorte de RSA pour les jeunes les plus en difficulté, la hausse des allocations familiales, tout ça a été adopté et dans un élan positif, on va dire, à la fin de l'année 2012 et au début d'année 2013. Et du coup, moi, j'avais commencé par avoir une première impression assez conquérante, j'allais dire.
Voilà. Et vous expliquez très bien ce que c'est que imaginer un texte de loi, l'enrichir, le défendre pour avoir au bout de tout un processus, pour ne pas dire un parcours du combattant, les premiers résultats.
Oui, c'est ce qui est frappant quand on est dans ce petit univers, c'est le nombre. En fait, c'est l'instabilité des décisions et le nombre des influences qui jouent en fait. Instabilité parce que vous avez vraiment l'impression que ce que vous faites le matin peut être détricoté à midi ou le soir, et le nombre d'influences parce que entre les différents ministères qui ont des intérêts propres divergents, entre l'Élysée, entre la force de Bercy et du porte-monnaie budgétaire, et puis tous les lobbies qui peut y avoir autour, les organisations syndicales, les associations, les lobbies divers et variés, et même bien sûr l'opinion publique, les journalistes qui font leur travail, tout ça crée une forme de continuel bruissement autour des décisions et des chemins que vous essayez d'emprunter. Et il y a une forme de vigilance permanente à avoir pour que ce que vous essayez de mener arrive à son terme.
Alors, parce qu'il y a quand même les deux, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous racontez là, ça peut enrichir un texte de loi ou ça peut le dévitaliser.
Exactement, et tout à fait, vous avez bien fait de le souligner. Il n'y a pas que du négatif dans ce bruissement-là et dans toutes les personnes qui y a autour. Nous, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, sur les deux plans, le plan pauvreté et le plan intégration, c'est de passer beaucoup par la société civile. Ce sont deux processus d'élaboration très participatifs avec énormément d'experts, mais aussi de citoyens venus en direct juste pour ça. Et ça, c'est du positif, effectivement, c'est de l'enrichissement. Et puis ensuite, il y a des influences plus négatives au sens de celui qui porte le projet, avec des gens qui essayent de déboulonner tout ça au fil de l'eau pour qu'à la fin, il reste problème. Et puis même des manœuvres assez, j'essaye d'en raconter un petit peu dans le bouquin, où je me fais avoir en fait par, là en l'occurrence par Bercy, qui me promet qu'on va avoir de l'argent, là en l'occurrence c'est pour l'hébergement des demandeurs d'asile, et puis qui finit par détricoter les choses sans que je ne puisse le savoir, et quand je sais c'est trop tard.
Alors Mathieu Angotti, vous racontez aussi ce qu'est un conseiller, c'est-à-dire beaucoup de travail, une forme de sacrifice, parce qu'il y a aussi ce côté intime, hein, c'est quoi avoir des enfants, avoir une vie de famille et pourtant passer le plus clair de son temps, de ses nuits à Matignon ou à travailler pour Matignon.
Oui, c'est aussi un autre paradoxe, c'est-à-dire que Matignon c'est extrêmement confortable. On a des bons salaires, on a des conditions de travail qui sont absolument remarquables. Chacun a un bureau très confortable, très grand. On peut mettre des tableaux de maître empruntés aux collections nationales.
Et vous avez même l'honnêteté de dire que être dans un centre de pouvoir, ça procure du plaisir.
Absolument, il y a un côté l'endroit où il faut être, il y a un esprit de corps qui se constitue très vite alors que pourtant on se connaît pas en arrivant. Donc tout ça, ça crée une émulation, ce que j'appelle dans le bouquin un effet de diaphragme où ça, on se serre progressivement dans ce microcosme. Et paradoxalement, il y a une forme d'instabilité dont je parlais tout à l'heure et une forme de vigilance permanente et une forme, ça pousse à la présence totale, c'est-à-dire soit présence réelle du matin au soir, soit présence même à distance avec le jeu des technologies dont on dispose aujourd'hui, qui fait que cette vigilance pousse à être tout le temps connecté, tout le temps là. Il y a presque parfois des dérives comme une sorte de concours à celui qui enverra le mail le plus tard la nuit pour démontrer qu'on est là, qu'on est présent et que on à la fois on suit nos dossiers et à la fois on fait partie de ceux qui sont à la manœuvre.
Alors une fois qu'on pénètre Matignon avec vous, Mathieu Angotti, petit, et tout ça est dessiné d'une manière remarquable par Robin Recht, parce que on reconnaît les personnages, mais le dessin n'est pas tout à fait réaliste pour qu'on puisse pouvoir rentrer dans la dramaturgie du sujet. Une fois qu'on est à Matignon, on se rend compte qu'il y a trois groupes de personnes, les politiques, pour aller très vite, les élus. Il y a aussi les fonctionnaires, ceux qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent les arcanes de Matignon, de comment ça marche. Et puis, il y a cette catégorie, et vous appartenez à cette troisième catégorie, celle des indépendants, des conseillers. Et on apprend d'ailleurs, en lisant des intégrations, la bande dessinée, que votre statut de conseiller, vous l'avez eu la veille ou le lendemain de la fin de votre mission.
Oui, tout à fait. C'est trois catégories qui essayent de travailler ensemble. Je pense que ces trois catégories, elles existent. Ce qui compte, c'est qu'elles ne soient pas toute seule et enfermée.
Mais alors justement, Mathieu Angotti, c'est très intéressant parce que dans votre bande dessinée, il y a les deux. Le fait qu'il y ait trois corps de métier dans ce centre de pouvoir, à un certain moment, on se dit « Oh, mais quelle lourdeur administrative !» Les choses ne vont jamais évoluer. Et puis d'un autre côté, et vous donnez aussi des exemples, même si vous êtes victime de ces exemples, c'est que ces trois corps sont là aussi pour rendre les lois plus consistantes, c'est-à-dire en prenant en considération tout, c'est-à-dire le volet économique, le fait qu'il y a des oppositions dans ce pays, que dans une démocratie, c'est pas seulement la majorité qui gouverne sans tenir compte des critiques de l'opposition, il y a les deux. Alors pour vous, justement, ce mécanisme, la manière dont fonctionne la politique française à Matignon, c'est plutôt une lourdeur administrative ou plutôt quelque chose qui vous paraît tout à fait légitime dans une démocratie forte comme la France ?
D'une certaine manière, je pense que on peut pas échapper à une administration quand le peuple délègue son pouvoir à la fois des représentants et puis une machine qui organise la vie publique. C'est je le vis aujourd'hui à travers une administration qui est locale, qui est territoriale, la ville de Grenoble et le centre communal d'action sociale. Je l'ai vécu effectivement quand j'étais à Matignon. C'est quelque chose qui fait corps avec la démocratie. Ce que je pense, par contre, c'est que ça ne peut fonctionner correctement que si cette machine se réfère systématiquement et beaucoup plus au peuple, justement, et fait appel à ses compétences. On a besoin, dans les machines gouvernementales ou dans les machines locales, de faire appel à tout le monde. On a besoin que les citoyens, n'importe qui, puissent participer beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'élaboration des lois, des politiques, et notamment ceux qui sont victimes d'exclusion, de discrimination, ce qu'on appelle parfois les invisibles, qui ne participent à rien, qui votent plus depuis longtemps. Voilà. Donc, oui, bien sûr qu'il faut une machine administrative, mais il faut qu'elle vive, il faut qu'elle respire, et cette respiration, elle peut être mise en œuvre en faisant appel aux citoyens. On en a besoin.
Alors, parlons justement de la dramaturgie de votre bande dessinée, c'est-à-dire ce projet de loi qui n'est pas passé sur l'intégration. Il a suffi juste d'un mot dans ce rapport, à savoir le voile, pour que tout votre travail s'écroule, on peut le dire, Mathieu Angotti.
Oui, ça s'est joué sur une étincelle. Ce que je me suis dit après, en déconstruisant le process, c'est que on avait probablement une matière inflammable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que il a fallu une étincelle, mais sur une matière qui était inflammable. C'est-à-dire que l'étincelle, c'est effectivement le Figaro qui titre sur le fait que le gouvernement, dans le cadre de cette réforme de la politique d'intégration, souhaiterait au conditionnel remettre le voile à l'école, ce qui était tout à fait inexact.
Alors qu'il s'agissait de laisser les mamans voiler accompagner les enfants dans les sorties scolaires, oui.
Il y avait ça, et puis effectivement, dans un des rapports d'experts qu'on avait fait faire, il remettait en question, il se posait la question du caractère éventuellement discriminatoire des lois qu'on a, dont celle du voile à l'école, mais en aucune manière le gouvernement n'en avait conclu qu'il fallait remettre en question la loi de 2004. Et effectivement, cette étincelle met le feu à quelque chose qui était là, et qui, à mon sens, relève du fait que la politique d'intégration à gauche était encore à ce moment-là un impensé. Voilà. Et ça, depuis très longtemps, c'est ce qu'on m'avait dit pendant tout le process d'élaboration du projet. On m'a dit, fais gaffe, il va y avoir des angles morts, il faut embarquer la gauche, les partis, etc. Parce que pour l'instant, c'était le cas dans la campagne de François Hollande et ça l'a été ensuite. Le sujet n'est pas discuté, n'est pas pensé et on est fragile.
Et là, vous passez, c'est-à-dire au début de la bande dessinée, il y a ces moments de joie quand vous voyez que les textes que vous avez vous-même rédigés sont repris par le Premier ministre, vous reconnaissez vos formules, votre raisonnement, vos mots, là, on est vraiment dans la partie heureuse de ce récit, et ça se termine justement par cette loi qui ne va pas aboutir à cause d'un mot, ou alors, c'est la question que je voudrais vous poser, Mathieu Angotti, parce que vous n'êtes pas suffisamment politisé, et que vous êtes, vous, dans le concret, vous êtes plutôt technicien, vous êtes en relation directe avec le terrain, et que vous n'aviez pas eu ce recul politique pour doser les mots, les phrases, savoir ce qui est inflammable, pour reprendre votre expression, et ce qui l'est moins.
C'est sûr que j'ai ma part de responsabilité. Je pense que effectivement j'ai fait preuve d'une certaine forme de candeur dans cette histoire. Après j'étais quand même entouré. On était une petite équipe et je crois qu'on a tous. En fait, on a fait preuve de candeur. Moi, je pense par inexpérience, mais globalement par enthousiasme aussi, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on y croyait vraiment. On avait vraiment envie que ça aboutisse. Après, on n'avait pas mesuré les plaques tectoniques. Après, il y a un élément qui est un peu aussi étonnant, c'est que dans cette explosion fin 2013, début 2014, se jouent des choses qui n'ont rien à voir avec le projet en lui-même. C'est-à-dire se joue la volonté d'une partie de la gauche d'éliminer Jean-Marc Ayrault, de faire en sorte qu'un nouveau Premier ministre soit nommé, de prendre des places au sein du gouvernement, ce qui va se passer quelques semaines plus tard au moment des élections municipales de 2014. Et donc, la gauche joue aussi une guerre fratricide en prenant le prétexte de cette réforme-là.
Alors justement, je vous propose d'écouter un extrait du discours de Jean-Marc Ayrault au lendemain des élections municipales qui étaient catastrophiques pour la gauche au pouvoir.
Le président de la République tirera les enseignements de ce scrutin. Et il le fera dans l'intérêt de la France. Ce soir, c'est bien l'intérêt de la France qui doit être la préoccupation de chacune et de chacun d'entre nous.
Voilà, alors je ne sais pas si vous avez participé à ce discours, Mathieu Angotti.
Non, pas celui-ci.
Bah alors, mais quand vous avez entendu quand vous avez entendu Jean-Marc Ayrault prononcer ces mots, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit, ça y est, c'est fini?
Ça faisait quelques semaines que les carottes étaient cuites, que à peu près plus personne au cabinet n'y croyait vraiment. Avec la particularité de François Hollande, c'est que vous avez toujours un espoir, comme ces décisions ne sont pas rarement gravé dans le marbre, on va dire. Mais quand même, on sentait bien que là, les choses étaient pliées. Le coup de grâce, c'était vraiment dès le premier tour, en fait, de l'élection municipale, où le boulet était passé. Et donc, effectivement, la semaine entre les deux tours a été vraiment sépulcrale au cabinet.
Voilà, vous racontez tout ça, vous racontez aussi la fin, le blues que vous allez avoir quand vous allez quitter Matignon. Mathieu Angotti, est-ce que l'envie de faire évoluer le système vous anime toujours?
Plus que jamais. D'abord, cette expérience ne m'a pas du tout dégoûté de la politique, d'à aucun point de vue. Au contraire, je me suis plutôt senti partie prenante, malgré tous les échecs, hein, de quelque chose qui avait encore du sens. Et puis, que ce soit localement, ici, à Grenoble, ou de manière plus générale, j'ai toujours cette... que j'avais avant, d'ailleurs, quand j'étais dans l'univers associatif, qui est un univers de personnes très, très engagées, hein, cet engagement qu'ils m'ont transmis, je l'ai toujours.
Puisqu'on s'intéresse à la politique en ce moment, et plus que jamais... pour cause, moi je vous recommande vivement de lire cette bande dessinée, ce roman graphique, ce témoignage de Mathieu Angotti à Matignon. C'est dessiné par Robin Reich, c'est bien de le rappeler. Désintégration, journal d'un conseiller à Matignon. Et Mathieu Angotti était en duplex de Grenoble. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Au revoir et bonne matinée. Dans un instant, Émilie Chaudet.